France Culture, 18h14, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos invités, Laurence Angèle, Olivier Tesquet et nos chroniqueurs. Ce soir, des chroniqueuses, Claire Baumeller du Figaro et Zoé Sfez. On commence avec vous, Zoé, par évoquer tout simplement les vœux du ministre de la Culture, des vœux, comment dire, chahutés.
Mais c'était pas des vœux, en réalité, c'est un début d'année très compliqué pour Franck Riester, ministre de la Culture, puisque il a annulé ses vœux qui devaient avoir lieu mardi dernier et qui devaient avoir lieu à la BNF, chez vous, Laurence et Angèle. On a tous reçu le même mail deux jours avant, nous expliquant que pour des raisons de... parce que ça n'était pas possible dans des conditions sereines, je crois. Franck Riester qui ensuite n'a pas renoncé à sa sortie qui était prévue donc jeudi dernier, le 23, c'était à Nantes, au Biennale International du Spectacle Vivant, à Nantes, où il devait faire une annonce qui était plutôt attendue en réalité, une annce que beaucoup de journalistes ont oublié de relayer, une annonce de 8 millions d'euros de crédits supplémentaires pour le spectacle vivant jusqu'en 2022 pour essayer, disons, de contrer les effets potentiellement pervers de la fameuse loi des 3D, délocalisation, décentralisation. Donc il annonçait ces 8 millions de crédits en plus pour des reprises de spectacles, etc. Et il a été accueilli par une interstitiale du spectacle vivant qui l'a plus que chahuté, qui a pris la parole avant même que lui ne puisse la prendre et qui a donc dit sa défiance à la fois envers cette fameuse loi des 3D qui vise directement le spectacle de vivant et en même temps évidemment les préoccupations liées à la réforme de l'assurance chômage, puisque il faut le rappeler absolument, on est sur un secteur, le secteur de la culture, qui compte au moins 5 régimes spéciaux, la Comédie Française, l'Opéra de Paris qui est toujours en grève, les intermittents du spectacle, les pigistes,
qui n'a pas été hier soir je crois,
les artistes auteurs, exactement, c'était la première fois qu'il y avait une reprise, mais c'est pas dit que ça continue. La prochaine journée mobilisation, je crois, c'est mercredi prochain. Franck Riester qui s'est dit, je cite, très attentif à ce que la situation sociale ne soit pas dégradée par la réforme des retraites. Je prends 4 engagements devant vous. Il n'y aura pas d'impact négatif ni sur le pouvoir d'achat, ni sur le budget de la culture, ni sur le niveau des pensions, ni sur l'emploi. Et là-dessus, l'intersyndicale a repris la parole derrière pour expliquer que, telle qu'elle existait, la réforme ne garantissait aucune de ces 4 engagements. Néanmoins, le BIS, donc le président des Biennales Internationales du Spectacle, s'est félicité quand même d'avoir maintenu cette rencontre en expliquant que Franck Riester avait quand même eu le mérite de venir, en expliquant que certains ministres, par le passé, avaient tout à fait oublié, enfin en tout cas avaient annulé toute leur performance. Et en fait, on s'est rappelé quand même qu'il s'était passé exactement la même chose en 2006 avec Renaud Donnedieu de Vabre, qui a lui aussi essuyé à peu près la même colère. C'était au moment de la réforme de l'intermittence du spectacle qui avait finalement été tout à fait écartée.
Laurence Angèle, une réaction, les vœux finalement, les petits fours ont été remis au frigo tranquillement.
Il n'y avait pas de petits fours, donc de ce point de vue, pas de changement au programme. Et voilà, écoutez, c'était pas propre au ministère de la Culture, me semble-t-il, l'annulation des vœux. Donc
une décision plus globale.
C'est d'autres ça ministères, oui, absolument. D'autres ministres ont renoncé aussi.
Autrement dit, c'est le lieu emporté peu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, le fait que ce soit la BNF.
Ah non, alors ça, de toute façon, ça n'était absolument pas lié au lieu, puisqu'il n'y avait pas de problème particulier ou lié particulièrement à la BNF.
C'était une stratégie globale de l'exécutif.
Nuit de la lecture et nuit des idées. L'une a eu lieu, l'autre va arriver. On en parle avec vous, Laurence Angèle, dans un instant. Zoé Sfez, des événements relativement récents.
Bah oui, alors bilan pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture, ça c'était donc il y a 10 jours à peu près. 4e édition, cette Nuit de la Lecture, il faut se rappeler, elle avait été décidée en 2017, c'était la première édition, décidée très peu de temps avant d'être mise en œuvre par Audrey Azoulay, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et là, donc on est sur une 4e édition qui bat des records de fréquentation quasiment tous les ans. 650 000 participants, 6 000 événements gratuits à peu près partout en France, dans le monde, mais essentiellement en France, sous le signe dit du partage. Alors quand on dit nuit, ça va de 18h à 22h, c'est ça à peu près, je crois. Et ça se passe essentiellement dans les bibliothèques. Et puis la Nuit des idées qui arrive, et vous en faites partie avec le Collège de France. Cette fois-ci, c'est sous l'impulsion de l'Institut français. Et là, pour le coup, ça a lieu dans le monde entier. Cette thème de cette année, c'est être vivant. Il y a 2 masterclass en partenariat avec France Culture à la BNF. Et toute une très belle programmation, masterclass avec notamment François Sureau et Elisabeth de Fontenay. Ces 2 manifestations, elles ont respectivement 5 et 4 ans, 2 nuits comme ça dans le mois de janvier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, institution culturelle, ce type d'événement-là ? Qu'est-ce que ça dit finalement qu'il y a eu ce besoin ? Et sur ce mois de janvier, qui est toujours un mois, disons, un peu mort, c'est ce qu'expliquait en tout cas le ministère de la Culture quand il a mis en place ces nuits-là, qu'est-ce que ça vous apporte finalement ?
Je pense que pour le choix de la date, vous l'avez dit, les manifestations, enfin ce type de manifestation existe depuis longtemps. Enfin, le modèle, le prototype, c'est
de la musique,
de la musique,
82.
Absolument. Et à ce moment-là même, Jack Lang, lorsqu'il lance ce dispositif, cette manifestation qui continue d'exister aujourd'hui encore, ne dit pas on invente quelque chose de complètement nouveau. Il veut mettre en lumière des pratiques.
On fédère, on fédère des choses qui existent déjà par ailleurs.
Oui, et puis c'est un geste politique. On veut mettre en avant, on veut mettre la lumière sur quelque chose qui se fait déjà. La lecture, le lien entre la lecture et les bibliothèques et les librairies aussi, ou le lien entre les idées et par exemple les bibliothèques, mais toutes sortes d'autres lieux.
Parce que l'art là pour préexiste
évidemment. Oui, voilà, préexiste évidemment à ces manifestations. Et le choix de la date, c'est parce que la fête de la musique est en été et qu'il n'y avait pas encore de manifestation à ce moment-là de l'année. Donc le choix de la date est vraiment lié à ce calendrier des manifestations. Ce que ça peut apporter aux bibliothèques comme à toute autre institution, c'est précisément l'objectif poursuivi, de mettre en lumière quelque chose qui existe. En tout cas, pour la lecture, c'était très clair. Cette envie de rappeler que la lecture est quelque chose d'important dans la ligne de la politique menée depuis longtemps en faveur de la lecture et en faveur du livre. Voilà.
Il y avait la fureur de lire à une époque.
Absolument.
Est-ce qu'on n'a pas trop finalement parfois d'événements comme ça répétitifs? Il y en a beaucoup, vous disiez, il y a l'été, l'hiver, mais il y a aussi le printemps, l'automne et beaucoup d'autres saisons finalement.
Oui, il y a la nuit des musées, voilà. Il y a la journée du patrimoine. Voilà, oui.
Est-ce qu'on ne risque pas de lasser à force de multiplier?
Alors, on peut se poser la question, mais le public dit le contraire.
Et puis, ce n'est pas le même public.
Le public vient et semble venir de plus en plus souvent. Donc, je pense que ça correspond aussi à un besoin des gens de se retrouver. Donc, finalement, les objectifs des uns et des autres se retrouvent. Je ne suis pas.
Enfin, de se retrouver aussi physiquement et non pas simplement sur Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a ça sans doute aussi, l'idée que même si le numérique se développe partout, le numérique ne suffit pas. Ça, je pense qu'on va y revenir et qu'on a besoin de se retrouver. Ça ne suffit pas à construire une politique culturelle.
Un public différent.
Claire Baumeller.
C'est ça, c'est la question. Qui vient vous voir sur ces nuits de la lecture ? Est-ce que vous voyez des gens que vous ne voyez pas le reste du temps ?
C'était ça le pari à l'origine, c'est créer un événement de manière à attirer un nouveau public.
Pour la nuit de la lecture, je ne suis pas sûre que ce soit ça l'objectif. Enfin, en tout cas, on essaye très régulièrement parce que la politique des publics et l'envie ou la nécessité de développer les publics et surtout de les diversifier et partagé par toutes les institutions culturelles depuis longtemps, ces événements peuvent y contribuer, mais encore une fois, ils ne résument pas la multiplicité des actions qui sont entreprises par les uns et par les autres. Alors, est-ce que ça apporte un public différent à chacune des institutions ? Il faudrait regarder dans le détail. Je n'ai pas regardé d'études globales sur la nuit de la lecture ou sur la nuit des idées. Pour ce qui concerne la Bibliothèque nationale, on intervient, alors ceci étant dit, aussi en ligne avec une opération, enfin un outil numérique mis à la disposition des écoles et d'autres institutions pour donner accès à la lecture. Et pour ce qui concerne le site lui-même, on a invité des enfants à venir. Donc là, en effet, dans une bibliothèque plutôt de recherche, il n'y a pas tous les jours et à tout moment des enfants qui viennent. Enfin, ils viennent de manière plus épisodique. Et donc ce moment-là en est. Et par ailleurs, depuis le début de l'opération Nuit de la Lecture, nous avons invité le public à venir sur le site Richelieu écouter des textes dont la bibliothèque conserve les manuscrits, dans la salle de lecture des manuscrits, donc dans un endroit qui n'est pas, enfin on ne cherche pas à faire du chiffre pour le coup, c'est une petite salle, mais c'est un endroit extrêmement précieux, très, très joli et peu vu par le grand public, puisque réservé aux chercheurs qui viennent y travailler. Donc, par construction, on y voit des gens qui, habituellement, ne viennent pas à cet endroit.
Claire Baumeller, Zoé Svez, pour terminer sur ce sujet.
Non, sur la nuit des idées, ce qui est extraordinaire, c'est le succès à l'international. Je ne sais pas.
C'était son objectif, d'ailleurs.
Parce que là, il y a 40 pays qui ont adopté...
S'y associent, ouais.
Et qui se sont associés. Et c'est amusant de voir que... la France exporte sa philosophie ?
Oui, c'est effectivement une opération qui est née de l'Institut français ou à l'Institut français,
donc,
c'est-à-dire
ministère
des Affaires étrangères, très en lien avec le ministère de la Culture, mais avec une vocation internationale. La présence des idées ou des artistes ou des auteurs français à l'étranger, elle existe réellement. Donc on le voit ou cette manifestation en témoigne à sa façon.
En 2020, les grandes entreprises du numérique paieront une taxe en France. Alors soit nous arrivons, ce que nous souhaitons et ce que nous avons toujours souhaité avec le président de la République, à une solution internationale à l'OCDE. Et dans ce cas-là, ce sera la solution internationale de l'OCDE qui s'appliquera. Soit nous n'arrivons pas à une solution internationale à l'OCDE. Et dans ce cas-là, ce sera notre taxe nationale qui s'appliquera. Car la taxe nationale française sur le numérique, elle n'est ni suspendue ni retirée. C'est simplement le paiement des acomptes qui sont reportés du printemps à décembre 2020. Pourquoi ? Pour laisser le temps à la négociation de se faire dans de bonnes conditions, de manière sereine, comme le président de la République et le président Trump en sont convenus dimanche dernier.
Encore dans l'actualité ce soir, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, il s'exprimait ici au Forum économique mondial de Davos en Suisse, c'était ce jeudi à propos aux espèces de la taxe GAFA, une sorte de paix armée, écrivait d'ailleurs le Figaro, entre Paris et Washington a été décidée. Le ministre a rappelé que ça ne voulait pas dire pour autant que cette taxe était ajournée.
Et alors là, Bruno Le Maire essaye de présenter ça comme une bonne nouvelle. C'est probablement pas une si bonne nouvelle que ça. C'est quand même une forme de reculade de la part des Français. Il faut quand même appeler les choses parce qu'elles sont. D'ailleurs, les titres sont peu ambigus là-dessus. Donc, il y a eu ces fameux échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et Paris, donc, alors, dit que ça n'est pas une suspension, qu'on suspend les paiements de cette taxe.
Mais les paiements continuent à être comptabilisés.
En attendant une négociation au niveau de l'OCDE, au niveau européen. Or, la France avait quand même, c'était quand même une position particulière, annoncé, alors que ces négociations, elles auraient pu continuer toutes seules, Bruno Le Maire avait décidé d'aller faire cavalier seul, ce qui était une stratégie risquée et clairement qui ne s'est pas avérée payante, en disant on taxera avant même que les négociations finissent par se conclure, parce qu'on le sait très bien, c'est très difficile de négocier au niveau européen sur des questions de taxation. Or, en l'occurrence, il ne se passera rien puisque, en représailles, évidemment, Donald Trump avait menacé de taxer toute une série de produits français et en particulier le vin à 100%, ce qui était une menace effectivement très effrayante. Donc, Bruno Le Maire qui dit qu'il veut toujours parvenir à un accord au niveau de l'OCDE. Alors, est-ce qu'on y arrivera avant 2020 ? C'est absolument pas certain. On en parlera avec vous, Olivier Tesquet. Et il y a effectivement en plus l'idée que du coup on s'est tous désolidarisés puisque du coup au niveau européen, d'autres pays qui eux-mêmes étaient sur des mêmes types de réflexions sur la taxe, les Britanniques, les Italiens, qui sont sous le coup des mêmes types de menaces de la part des États-Unis, sont eux encore plus seuls dans cette stratégie de taxation. Donc la question c'est véritablement, est-ce que cette taxe défendue par Bruno Le Maire française a toujours lieu d'être, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à comptabiliser une taxe qui peut-être ne verra jamais le jour en attendant des négociations au niveau de l'OCDE qui verront le jour peut-être dans un an ou deux? Comment est-ce que vous voyez ça, vous, Olivier Tesquet?
Ça fait déjà 7 bonnes années.
Serpent de mer,
on parle. C'est un serpent de mer depuis.
François Hollande l'avait annoncé, d'autres.
On l'a eu sous toutes les formes. Alors aujourd'hui, c'est la taxe GAFA. Pendant longtemps, ça a été la taxe Google.
Taxe GAFA qui est un peu un raccourci quand même, puisque ça ne concerne pas que les GAFA.
Non, ça ne concerne pas que les GAFA. Et d'ailleurs, ça a été quand même l'un des problèmes pendant longtemps. C'était que pour trouver l'assiette de taxation, il fallait trouver une espèce de cote un peu mal taillée pour que ça s'applique aux GAFA, mais pas à tout un tas d'autres entreprises.
Pas trop aux Français, si possible.
Ce qui posait un problème d'équité devant l'impôt, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fini par avoir des discussions, ou réclamer en tout cas des discussions au niveau de l'OCDE. Et sur ces difficultés déjà existantes, sont venues se greffer tout un tas de considérations diplomatiques avec l'élection de Trump, qui effectivement est un partenaire commercial un peu imprévisible.
Et pugnace, on peut le dire aussi.
Et pugnace, et qui fait qu'effectivement aujourd'hui, une fois de plus, on est parti un peu la fleur au fusil. Et puis
on est parti parce que la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, à un moment donné, Bruno Le Maire et donc évidemment Emmanuel Macron, on se sont lancés dans ces déclarations d'intention, ont persisté dans ces déclarations d'intention qui étaient quand même relativement irréalistes.
Alors je crois que ça participe aussi, alors c'est marrant, ça fait un peu le lien avec ce dont on parlera tout à l'heure, mais ça participe aussi de cette mise en scène assez factice d'un affrontement avec les têtes de pont du capitalisme numérique, quoi. C'est une manière de dire au Facebook, au Google, qui échappent notoirement à l'impôt, et on le sait, et on passe l'année à essayer justement de récupérer les sommes qui sont dues au trésor public français. Donc c'est une manière aussi d'exister politiquement par rapport à ces grandes entreprises qui viennent finalement leur tailler des croupières. Et peut-être juste un dernier point, c'est que les discussions au niveau européen sont aussi rendu compliqué par le fait qu'on a dans l'Union tout un tas de pays qui ont aucun intérêt à changer les règles du jeu. Je pense alors évidemment à des paradis fiscaux déclarés tels que le Luxembourg, tels que l'Irlande, mais même les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui font partie du montage d'optimisation fiscale, qui n'est jamais qu'une appellation pudique de l'évasion fiscale, pour tout un tas de ces grandes entreprises et qui ont objectivement assez peu d'intérêt.
Et avec ça, en face de ce débat, le fromage, le champagne et les produits cosmétiques français qui risquaient d'être taxés à coups de milliards si cette taxe était mise en place par la France. Donc,
Et ça va être la même chose. En plus, du coup, on abandonne un peu ceux qui nous avaient suivis sur ce dossier, à savoir les Britanniques et les Italiens, qui se retrouvent encore plus marginalisés d'une
certaine manière. Laurence Saint-Gel, sur ce sujet?
Ouais, en tout cas, vous parliez de pugnacité et de persévérance, qui est la manière positive de parler du serpent de mer, mais c'est quand même la même chose. Donc, il faut l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien que ces sujets sont complexes, sont longs.
Si on ne part pas avec déjà un peu de volonté, on n'arrive à rien.
Oui, alors de ce point de vue-là, le fait d'aller, comme vous le disiez, la fleur au fusil, enfin en tout cas de tenter quelque chose.
C'est plutôt une bonne chose.
C'est plutôt une bonne chose parce qu'il faut tenir ce discours, il faut le porter et le porter durablement. D'autant plus que les Américains, de ce point de vue, sont si on se place pas du point de vue seulement des industries culturelles, mais de l'économie en général, sont soumis à la même difficulté. C'est-à-dire que aux États-Unis non plus, les GAFAM ne payent pas d'impôts. Donc il y a un terrain.
Donc il y a peut-être une possibilité.
Peut-être une possibilité. En tout cas, le monde de la fiscalité est appelé, avec le numérique, à évoluer sur des bases qui sont celles qui ont été proposées par les Français ou par d'autres. Mais c'est un sujet qui a un bel avenir devant lui.
Comment est-ce que vous lisez, vous, Olivier Tesquet, la stratégie de Donald Trump sur ce dossier-là précisément? Parce que Donald Trump, on l'a vu, a mis cette espèce de menace en balance. Et en même temps, lui, sur son propre terrain aux États-Unis, a fait des GAFA. Et là encore, c'est peut-être sans doute une stratégie politique. Ses ennemis, lui aussi, comment est-ce qu'on peut lire cette espèce de double jeu d'acteurs?
Oui, c'est assez particulier parce qu'effectivement, Donald Trump entretient des relations avec ces grandes entreprises numériques qui sont des relations assez compliquées. On a bien vu que pour l'élection de 2016, les médias étaient considérés comme des ennemis déclarés. Tout se présente pour 2020 pour que les entreprises du numérique, que sont Facebook, que sont Google et que sont d'autres, Amazon par exemple, que Jeff Bezos est quand même la némésis de Donald Trump, pour qu'ils soient eux-mêmes maintenant ses ennemis déclarés pour 2020. Donc effectivement, il y a cette espèce de double jeu où ce sont des ennemis sur le territoire national, mais où ça fait exister finalement l'influence américaine pour embêter la vieille Europe à l'étranger.
À suivre dans Soft Power, on vous retrouve Olivier Tesquet pour votre livre À la trace, suivi par la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Saint-Gel. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité, un mot sur Tidal. Tidal, c'est la plateforme de musique en streaming lancée en Europe d'abord et puis rachetée par des artistes américains, réunis d'ailleurs par le rappeur Jay-Z. L'objectif de Tidal était de devenir un rival, un grand rival de Spotify, Deezer ou Apple Music, avec un modèle économique vertueux visant à une meilleure rémunération des artistes, identique au prorata des écoutes pour les stars et les indépendants, par exemple. À coup d'exclusivité et une clé de partage des revenus privilégiant donc les artistes, Tidal a connu son heure de gloire en 2016 et réuni plus de 3 millions d'abonnés, chiffre qui n'a jamais toutefois été vérifié. Des artistes superstars comme Drake, Kanye West, Rihanna ou même Daft Punk et Arcade Fire avaient rejoint la plateforme qui était possédée majoritairement par les artistes eux-mêmes, dont Madonna, Rihanna ou Alicia Keys, sans oublier Beyoncé, justement la femme de Jay-Z, qui avait lancé sur Tidal en exclusivité son album Lemonade. Hélas, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. La plupart des artistes ont cessé de donner leur exclusivité à Tidal et Jay-Z lui-même a fait en fin d'année son retour sur Spotify le jour de ses 50 ans. Bon anniversaire, bon retour sur Spotify, a tweeté Pince sans rire, la plateforme suédoise. Alors l'expérience Tidal est-elle terminée ? À moyen terme, c'est probable, surtout que la compagnie perd plus de 50 millions de dollars par an malgré l'entrée au capital d'un géant des télécoms américain Sprint. Mais cela pose néanmoins la question de la répartition des droits de la musique en streaming et de la concentration, très grande concentration au demeurant, dans ce secteur crucial pour l'avenir de la musique. 80% aujourd'hui de la musique en streaming est écoutée en streaming, donc c'est des chiffres américains, mais valables un peu partout. Donc la musique, c'est beaucoup le streaming, YouTube bien sûr, mais aussi des plateformes comme Spotify, donc suédois je l'ai dit, Apple Music ou Tencent en Chine, et dans une moindre mesure Amazon Music, Deezer en Europe, hein, Deezer qui entre parenthèses n'est plus vraiment français au sens strict, hein, même s'il a encore son siège social en France depuis l'entrée au capital d'un actionnaire majoritaire russo-américain. On peut citer également Pandora aux États-Unis sur un modèle un peu différent, ou le petit français Qobuz sur la niche de la musique classique, sans oublier le passionnant SoundCloud, la plateforme allemande préférée des indépendants, mais qui elle aussi est un peu une niche. Bref, tous ces acteurs du streaming sont au cœur du modèle économique de la musique aujourd'hui. Tidal était une belle expérience et c'est pourquoi on doit saluer son audace, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, comme Jay-Z vient d'en faire, et là l'expérience. Welcome back to the jungle, Mr. Jay-Z.
Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. Made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto.